Bonjour à tous. Vous nous voyez venir ? La Saint-Valentin arrive à grands pas. Et n'est-ce pas l'occasion parfaite pour vous parler de produits qui apportent un peu de piment à cette période romantique ? Mais avant tout, je vous présente Mams Cook, qui sera avec nous à chaque début d'épisode pour nous parler de nos produits de saison, mais d'une façon un peu particulière. Consultante et créatrice culinaire, à chaque épisode, Mams nous apportera des petites histoires qui, comme elle le dit si bien, pourront nous permettre à tous de briller un petit peu en société. Bonjour Mams.
Bonjour.
Alors, on commence cette nouvelle saison du podcast du Grand Marché sur une conversation qui devrait plaire, les produits aphrodisiaques.
Une conversation chaude.
Quand on pense à produits aphrodisiaques, c'est vrai qu'on pense directement au gingembre, par exemple, avec la facilité. Est-ce réellement un produit aphrodisiaque ou est-ce un mythe ?
Ah ben non. Le gingembre, effectivement, c'est le plus connu des aphrodisiaques parce que c'est le plus connu des stimulants sexuels. Il était utilisé par les empereurs chinois pour satisfaire leurs nombreuses concubines. Ils en consommaient énormément. Faut savoir que ça provoque un afflux de sang vers les organes génitaux, donc forcément une excitation sexuelle. Donc oui, vous avez raison, le gingembre, ça marche.
Ok, on prend note.
Alors, un autre dont je vais vous parler, alors, je ne sais pas si vous connaissez, les Perses appelaient ça le pain des amants.
C'est joli en tout cas.
C'est beau, hein, vous ne connaissez pas ?
Non.
Alors, il est pas donné, hein, c'est le caviar. Ah. Voilà, il stimulerait. Vous notez qu'à chaque fois, j'utilise le conditionnel. Hein. Je suis très prudente quand même. Il stimulerait la circulation sanguine et donnerait du même coup un grand coup de fouet à l'excitation. Dans la liste, on retrouve aussi les poivres et les piments. En réalité, tout ce qui présente une concentration de capsaïcine. C'est cette substance qui permet de classer les piments suivant l'échelle de Scoville.
Okay.
D'accord ? Donc, on va y retrouver aussi le wasabi, par exemple. Hein, ça marche aussi. Hein, parce qu'en fait, c'est cette substance favoriserait l'érection.
Okay.
Tout simplement. Et puis, de toute façon, il y a bien une expression qui dit « mettre du piment dans sa vie sexuelle ».
Absolument.
On est bien d'accord. Donc, voilà.
Elle vient pas de nulle part.
Exactement. L'ail. Voilà, comme le
plus
caviar,
commun.
Oui, beaucoup plus commun et plus facile à trouver dans la cuisine, hein, donne un coup de fouet à la circulation sanguine et du même coup favorise l'irrigation des organes sexuels. Alors, je tiens à préciser que ça marche chez la femme ou chez l'homme. Hein.
Ok.
Oh, non,
important,
mais attendez,
quand même.
Oui, non, mais il faut quand même, voilà, soyons raisonnables. Hein. Les huîtres.
Ok.
Voilà, encore un aliment bien de saison.
Oui, tout à fait. Elles bien savourées pendant les fêtes.
Exactement. Elles ont une teneur élevée en iode et en phosphore, comme l'ensemble des fruits de mer d'ailleurs. Mais ce qu'elles ont en plus et qu'elles sont la reine, c'est qu'elles sont très riches en zinc. Et cet oligo-élément a la propriété de favoriser la production de testostérone, tant chez l'homme que chez la femme, et de stimuler le désir.
Ça marche, on prend bonne note. Et alors, le chocolat, c'est quand même un des produits qu'on offre le plus ou qu'on met le plus en avant pendant cette Saint-Valentin. Et est-ce simplement un coup du marketing ou est-ce vraiment aphrodisiaque ?
Bon, là, vous allez un peu vite. Il y avait encore un produit de saison, un légume dont moi, je voulais vous parler quand même.
Okay.
Le pénis végétal. Oui, je vois, ça vous fait rire. Hein. Alors, ça vient pas du tout de la forme de ce légume, hein, puisqu'il s'agit du céleri.
Okay.
Donc, vous voyez,
le céleri.
Il a pour vertu de stimuler la libido masculine.
Mmh.
Et un des plus grands séducteurs de l'histoire en consommait de façon, régulière, voire énormément. C'est Casanova.
Ah bon.
Voilà, donc vous voyez,
ça.
Manger du céleri, quoi.
Manger du céleri.
Bon, alors le chocolat, voilà, le chocolat, comme vous disiez. Effectivement, ça fait partie de ces produits beaucoup mis en avant, notamment dans les publicités qu'on voit fleurir au moment des fêtes,
quoi,
et au moment de la Saint-Valentin. C'est un symbole de la Saint-Valentin parce qu'en fait, c'est un symbole de la volupté et du plaisir partagé.
Okay.
Donc, vous voyez, après... Le chocolat contient de l'arginine, qui est un acide aminé qui, une fois dans l'organisme, va devenir vasodilatateur, avoir un effet vasodilatateur.
Okay.
Donc forcément, ça joue.
Ça...
Voilà. Hein. Et puis, c'est quand même un aliment, et on le sait tous, qui développe, enfin qui stimule les endorphines qui sont liées au plaisir. Donc oui, le chocolat pourrait avoir, et si je me fie aux Aztèques, qui eux consommaient du cacao pur, il le consommait comme un excitant sexuel très puissant. La fête de la Saint-Valentin, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelque chose de récent. Mmh. Ça date d'il y a très très longtemps. Okay. Et il y a depuis très longtemps des jeux autour de cette Saint-Valentin qui se sont mis en place. Okay. Et les jeunes femmes, les jeunes filles à une époque ne fréquentaient pas les jeunes hommes, j'en bafouille. et par conséquent, leur occasion de se voir était peu fréquente, leur occasion de passer un message était compliquée. Donc, ces jeunes filles avaient trouvé une petite astuce. Elles avaient toujours sur elles un petit mouchoir. Et lorsqu'elles croisaient un jeune homme qui leur plaisait, pour lui faire savoir que, oui, ma foi, elles étaient très intéressées, elles laissaient tomber à leurs pieds un petit mouchoir.
Okay.
Mouchoir très souvent brodé,
bien sûr,
qui laissait passer un petit message.
Okay.
Donc, vous voyez, le jeu du mouchoir de la Saint-Valentin était quelque chose qui existait depuis longtemps et qui permettait aux femmes de pouvoir quand même être dans la séduction et un peu quelque part dans la petite drape, quoi.
Je vois. Hein, très, très bien. Bon, très élégant,
puis,
en plus,
oui,
quand même, comme
oui,
façon de
faire. Oui, puis c'est un peu romantique. Mmh. Et puis, ça fait du bien, un petit peu de romantisme dans ce monde de brutes.
Oui,
hein, on peut pas non plus que... Voilà.
Hein,
bon, et puis, moi, je dirais que dans ce cas-là, si on veut être romantique aujourd'hui, alors vous pouvez toujours essayer le coup du mouchoir, hein, mais je sais pas si c'est encore tellement d'actualité. Moi, j'irai plutôt vers les fleurs, parce qu'elles ont tout un langage.
Oui.
Et puis, un bon repas, bien sûr.
Mmh. Alors, le repas, on y a pensé avec le chef du buffet du Grand Marché, qui va nous préparer une recette pour la fin de l'épisode.
Chouette.
Avec tous les produits dont on a parlé juste avant.
Ça va être chaud, ça aussi,
ouais,
hein.
J'ai hâte de goûter ça. Et pour les fleurs, Mams, tu n'es pas sans savoir qu'au marché d'intérêt national de Toulouse, on a tous les professionnels dont on a besoin pour parler de nos fleurs de saison à offrir pendant cette fête. Et comme tu le dis, chacune d'entre elles a sa petite histoire. Donc, merci encore une fois, Mams, pour toutes ces petites anecdotes qu'on ne manquera pas de ressortir. Et à bientôt.
À très, très bientôt.
Bonjour Jean-François Olivier, dirigeant de Canol Fleur, entreprise locataire du Grand Marché depuis de nombreuses années. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire un mot sur Canol?
Et on est grossiste en fleurs coupées, plantes, fournitures et fleurs séchées, pour tous les professionnels de la fleur.
Voilà, donc en gros, les gens chez qui nous, consommateurs, allons acheter notre bouquet, ils viennent se fournir chez vous pour ensuite revendre en magasin.
C'est ça. C'est bien ça.
Donc aujourd'hui, mois de février oblige, nous consacrons notre épisode à la Saint-Valentin. Donc on a parlé avec Mams Cook juste avant de plusieurs produits aphrodisiaques et leur histoire parfois un peu insolite, pour ensuite les cuisiner avec Jocelyn, le chef du buffet du Grand Marché, juste en bas. Et avec vous, Jean-François, je voulais parler des fleurs à offrir à son ou sa dulcinée pour cette fête des amoureux. Parce que quand même, les femmes ne sont pas les seules à aimer recevoir un joli bouquet et encore heureux. Alors immédiatement, on pense à le magnifique bouquet de roses bien rouges. C'est, j'imagine ça peut-être qui est le produit phare de cette période pour vous.
Exactement. La rose rouge reste toujours le produit phare pour la Saint-Valentin. Je dirais aussi que maintenant, depuis une à deux années, on s'oriente aussi vers des fleurs différentes, des fleurs de production française, sur le thème de la couleur rouge, bien sûr, mais ou d'autres couleurs, puisqu'on est en pleine saison de mimosa, de renoncule, d'anémone et de tulipe.
Okay.
Donc, ces fleurs aussi plus locales, de production française, sont prisées de plus en plus par les fleuristes.
Voilà. Parce que pour le coup, oui, on a cette couleur rouge qui remonte à très très loin dans la culture occidentale. Ouais. Elle a sa petite histoire dans la mythologie grecque. En fait, on pensait que c'était Aphrodite, la déesse de l'amour, qui aurait créé cette fleur si unique. Le mythe raconte que cette fleur a poussé dans le sol, arrosée avec les larmes de la déesse et du sang de son amant Adonis. Donc, tout s'est construit, j'imagine, autour de ça, pour parler de passion, etc., avec les fleurs rouges. Parce qu'on voit justement aussi que la tulipe rouge a cette même signification de l'amour passionnel.
C'est exact.
Et après, effectivement, on a les fleurs davantage de saison, du coup, qui se développent de plus en plus, et c'est génial. Et par exemple, le mimosa, ce magnifique bouquet que je vais m'empresser de prendre tout à l'heure, a des petits boutons jaunes, du coup, vifs, qui symboliseraient la sensibilité, la tendresse, l'élégance. Ouais. Mais le symbole le plus répandu est encore celui de l'amour secret ou encore les retrouvailles. Donc ça peut être aussi un petit, une petite attention sympa à faire à son ou sa partenaire pendant ces fêtes de l'amour.
Exactement.
Et après, exactement. Oui, j'imagine que la tulipe, on était tout à l'heure dans votre case et on voyait de magnifiques tulipes de toutes les couleurs. Pour le coup, elles sont toutes à la même saison.
Elles fleurissent toutes en même temps et de toutes couleurs. Et c'est vraiment la pleine saison. Là.
Ok. Voilà. Et pour le coup, là, on a la blanche, la tulipe blanche qui représenterait, on prend avec des pincettes ouais. Ces petites histoires, mais l'amour sincère, pur et idéaliste. On a la tulipe jaune qui symboliserait l'inquiétude au sujet de la relation amoureuse. Donc, ouais. Peut-être pas la meilleure période ouais. Pour
peut-être
l'offrir.
Pas la meilleure période.
Mais en revanche, sa couleur solaire est aussi le symbole de la joie simple. Donc, on peut aussi très bien offrir ces tulipes-là sans avoir envie de parler d'amour, forcément.
Surtout que 15 jours après, on a la fête des grands-mères.
Mmh. Et donc,
la couleur principale de la fête des grands-mères, c'est le jaune.
Voilà, pour voilà. Ce côté solaire, ouais, j'imagine.
Exactement. Et gaieté, soleil, chaleur, et voilà.
Super. Bon, bah, écoutez, je suis ravie d'avoir parlé de
avec
tout
plaisir.
Ça avec vous. Merci encore d'être là. Longue vie à Canol. Encore,
merci
encore,
bien. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. On a parlé des produits de saison à tendance aphrodisiaque avec Mams Cook. Toujours de saison, nous avons discuté des fleurs à offrir et leur petite signification avec Jean-François de chez Canol Fleurs. Et maintenant, nous rejoignons Julien et Jocelyn, le chef du buffet du Grand Marché, qui va nous proposer une recette avec la plupart des produits dont on a déjà parlé. Une recette qui devrait apporter un peu de piment à votre soirée de Saint-Valentin, donc.
Jocelyn, bonjour.
Salut.
Alors, Jocelyn est en train de préparer. Il est en train de préparer un truc qui tient à cœur à Lola, notamment. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, qu'est-ce qui va être à la fois chic, élégant et un peu aphrodisiaque, non ?
Un peu aphrodisiaque, oui. Mais comme nous le racontait Mams tout à l'heure, on a là une recette à base de presque que des ingrédients aphrodisiaques. Donc, de quoi faire une bonne soirée de Saint-Valentin avec Jocelyn, du coup.
Allez, c'est parti pour la recette. Donc, première chose, on va acheter des huîtres. On les prend fraîches du matin en poissonnerie. On les prend
exactement,
comment ? Numéro
exactement.
3.
Après, selon les préférences de chacun... Si on préfère, en général, les gens préfèrent une huître plutôt, on va dire, plutôt légère, pas trop, qui est en consistance, qui n'est pas trop de mâche. Donc en général, c'est de la numéro 3. Voilà, après numéro 4, on part sur quelque chose de beaucoup plus petit. Quand c'est trop gros, des numéro 1, en général, il y a une texture qui est un petit peu désagréable en bouche.
On va essayer de piéger Lola. tu sais ce que c'est quand on appelle des huîtres fines de clair ?
Non, mais je sens que tu vas me l'expliquer.
C'est qu'elles sont élevées dans un bassin après avoir été dans la mer, c'est ça ?
Elles sont affinées dans des bassins d'eau claire, en fait. Ce qui fait qu'elles se purgent à l'intérieur, elles se dessablent, elles perdent un petit peu de salinité et d'iode pour quelque chose de beaucoup plus fin. Quoi.
Ok.
Voilà. Tu sais les ouvrir, toi, les huîtres, ou pas ?
Oui, absolument.
Tu nous montres ?
Alors, je peux vous montrer.
Allez, c'est parti. Tiens, on va regarder sous l'œil de Jocelyn si elle... Ah non, il n'y en a plus, là, mince.
Alors, je peux aller en chercher.
Carrément, on va faire démonstration. On va voir, tu sais, il faut prendre le troisième doigt, c'est ça en fait ?
Ouais, alors
majeur.
Moi je les ouvre pas par là, je les ouvre par derrière, alors c'est peut-être pas la méthode la plus utilisée, mais j'en ai ouvert beaucoup pendant les fêtes et ça a très bien fonctionné.
Vu comme ça, moi c'est une technique qui me fait très peur quand même, hein. Jocelyn ?
Si, après pareil, il y a deux méthodes, moi effectivement je les ouvre comme ça.
Ah ouais ? D'accord, moi je les ouvre plutôt au niveau du majeur, tu sais, sur le côté. D'accord.
Quand on prend une huître comme ça sur le côté, on part sur le troisième doigt, le nerf se trouve exactement en face.
Mais vous savez quoi ? Ça me faisait très très peur, mais bravo Lola, elle est ouverte à la perfection, félicitations !
Bravo !
Merci Julien.
Elle a passé l'épreuve. Bon, revenons à nos huîtres. Alors, allez. Du coup, on les a choisis, on les a ouverts, ou alors on a fait venir Lola à la maison pour ouvrir les huîtres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la recette ?
Donc ensuite, on a une discussion sur le thème de la Saint-Valentin avec Lola il y a de ça une semaine. Donc on a pris vraiment tous les éléments un petit peu de Saint-Valentin et tout ce qui est un peu aphrodisiaque. Donc avec en grande ligne le gingembre, donc le céleri, le chocolat. Moi je suis parti sur une sauce vierge, donc une sauce à base... Aujourd'hui, donc, ce sera de l'huile de sésame, du céleri cru en petits morceaux. Il y a un petit peu d'oignon nouveau, une petite touche acidulée avec de l'agrume qui aujourd'hui est de l'orange. Et du gingembre mariné au vinaigre de mirin. Donc, vous savez, le gingembre que vous trouvez dans les sushis, en fait.
Dans les gingembreries.
Dans les gingembreries, tout à fait, aussi. Donc, voilà, pour amener cette dernière petite touche d'acidité et ce côté très sensuel.
On vous mettra la recette dans la description, bien sûr, de cet épisode. L'épisode numéro 7, le premier de cette nouvelle saison.
Un élément indispensable que j'ai oublié, que je mettrai aussi sur la fin, ce sera une petite cuillère de caviar. Voilà. En termes de prix, le caviar, tout est accessible.
Caviar, soit dit en passant, offert généreusement par Pomona.
Attention, Jocelyn, c'est l'instant promo. Là, c'est la publicité pour ce caviar. Donc, on y va, c'est parti. Sponsorisé.
Non, c'est vrai que Pomona, pour le coup, est une entreprise phare locataire du grand marché depuis des années. Et du coup, ils nous ont fourni ce bon caviar français. D'élevage en Dordogne et Tarn-et-Garonne.
Jocelyn, maintenant, c'est le moment de parler de ce produit phare, de ce produit noble, le caviar. Ça peut faire peur à pas mal de gens, outre le prix, c'est vrai qu'il peut être élevé, mais à la rigueur, on est à la Saint-Valentin, on se fait plaisir. C'est peut-être pour le public, comment ça se mange et est-ce que je vais pas rater la première fois que je vais goûter mon caviar? Est-ce que je vais pas rater l'entrée, en fait, dans ce produit?
Après, le caviar se déguste très souvent avec des produits très très simples à côté. Une petite salade de pommes de terre, un petit peu un œuf au plat. Voilà, il faut. On achète un produit quand même relativement noble et sa noblesse fait qu'il s'adaptera plus ou moins à tout, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher d'éléments. Il n'y a pas besoin de superlatif, quoi. Mmh. Voilà, il se suffit à lui-même. Donc, je vous conseille, moi, dans un premier temps, si vous n'êtes pas très grand connaisseur, c'est de le marier avec quelque chose le plus simplement possible, ou même tout seul, même avec une cuillère. Voilà, donc évitez surtout les cuillères en fer qui peuvent oxyder le grain et lui faire un petit peu tourner le goût. Donc c'est mieux une cuillère en bois, en nacre, comme c'est traditionnel. À savoir que son âge fait que son goût va être de plus en plus exacerbé. Un esturgeon qui est très très vieux va donner un caviar qui va être très très fort, très puissant, très goûtu. Et voilà, donc souvent on
raconte qu'on doit le mettre normalement un petit peu, tu sais, sur la main.
C'est ça, pour le réchauffer, pour lui amener justement un petit peu le même principe que le vin, pour le monter un peu en température et que toutes ses saveurs puissent s'exprimer au moment de la dégustation.
Attention, l'instant est solennel, faut pas mettre de perles de caviar à côté. Voilà, donc c'est bon. Jocelyn, il est en train de faire ça très très bien. Il nous prépare une sorte de quenelle, en fait.
C'est ça, tout à fait. Voilà. Bon, après, là, on est plus dans l'esthétique pour que ce soit un petit peu joli, bien posé au milieu et que ça fasse un joli résultat. Mais voilà, là, donc du coup, on a récupéré deux petites cuillères en bois qu'on utilise, ben, voilà, pour faire des petites quenelles, ce qui fait une finition assez sympa, quoi.
Et alors ça, du coup, Jocelyn, c'est l'entrée plutôt du repas pour toi?
Tout à fait, voilà.
D'accord.
On est, voilà, après dans le thème, vous verrez après, on est parti sur un céleri en croûte de sel qui fera plus office de garniture d'un plat chaud qu'il va falloir un petit peu amener avec autre chose. Mais vous verrez, la recette est assez sympa et originale pour une Saint-Valentin, quoi.
Mais pour le coup, c'est vrai que la sauce est pas hyper relevée, donc ça dénature pas trop l'huître, on la sent quand même. Et en fin de bouche, on a le caviar. C'est absolument délicieux.
Le gingembre parfume l'ensemble, ouais. tout en n'étant pas trop trop présent, quoi. Voilà.
Pour la suite de notre repas de Saint-Valentin, après cette entrée à base d'huître, de sauce vierge, de gingembre et de caviar, on est parti sur une autre recette qu'on vient de découvrir à l'instant. Alors visuellement, pour l'instant, on est parti sur quelque chose qui a été visiblement cuit en croûte, hein, c'est ça?
Oui, j'ai bien l'impression. Il va nous en dire plus.
Alors, il y a quelque chose à l'intérieur quand même, je sens, ou pas?
Oui. On est parti sur, donc pareil, dans l'idée de rester sur le thème de la Saint-Valentin, on est parti sur le céleri, mais du coup en croûte de sel, avec de la baie de Genièvre. Donc l'idée, c'est de créer autour du céleri une croûte de sel pour que le céleri cuise à l'intérieur de cette croûte de sel dans sa même vapeur. garder les goûts, concentrer les sucres, enfin tout ça pour que pour avoir un produit vraiment au top quoi.
Voilà, c'est pareil, on vous mettra la recette dans la description de notre podcast.
Merci. Alors là, je vais commencer à la casser.
Allez, c'est parti.
Hop là.
Donc il y a par exemple combien de kilos de sel là?
Là, on est à environ 3 kilos de sel. Et après, moi, je la colle au blanc d'œuf. Enfin, beaucoup de monde la colle au blanc d'œuf, tout le monde. Donc on va dire...
Donc c'est du gros sel qu'on achète comme ça, c'est celui sel. On cuisine pas forcément avec.
Le même que vous trouvez dans votre supermarché, exactement.
Le céleri se dévoile maintenant, donc voilà. Il est cuit effectivement, en croûte de sel.
Voilà, donc là je le sors. Vous voyez à l'intérieur toute cette couche d'humidité. Et là on est sur un produit, enfin vous le voyez pas, mais c'est très très moelleux, c'est presque confit à l'intérieur.
En tout cas ça donne beaucoup trop envie, ici, là, chers auditeurs. Et c'est rigolo parce qu'on dirait un ananas.
C'est ça, on a un peu l'aspect de l'ananas, donc il a confit. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de rajout d'eau, il a vraiment cuit dans sa propre vapeur, toute l'eau de un peu cette eau de végétation dans laquelle il a cuit. Donc là, en termes d'optimisation du goût, on est pas mal.
Alors combien de temps il a cuit là?
Là, il a cuit environ, on va dire, 2h30, un four à 180 degrés, dans cette fameuse croûte de sel. Quoi.
C'est incroyable parce que c'est de l'ananas pour moi, hein, mais vraiment.
C'est vrai, ouais, le céleri, bah après, on n'a peut-être pas tous l'habitude d'en manger souvent, mais c'est un produit pleinement de saison en plus.
C'est un peu un produit mal aimé, hein, c'est pour ça que c'est cool que tu aies eu cette idée, Lola, de nous amener ici en cuisine avec le céleri, parce qu'habituellement, c'est un produit bon déjà que les enfants n'aiment pas trop, qui est un produit un petit peu hashtag personne âgée, on va dire. tu vois.
Oui, c'est vrai, alors que pour le coup, bah, là, on va le retrouver dans une recette un peu originale avec du chocolat, mais même il y a une bonne purée de céleri avec un bon assaisonnement, etc. Enfin, il y a de belles recettes quand même.
Et on vient napper. Alors ça, par contre, ça m'intéresse. On nappe avec du chocolat, mais alors c'est
là,
comment?
On est parti donc pour rester un petit peu dans le thème. On est parti sur une gastrique. Donc en fait, gastrique, c'est à la base c'est vinaigre et sucre, mais moi j'ai remplacé le sucre par du miel. Donc on fait un temps pour temps, donc 100 g de vinaigre Xérès avec 100 g de miel. Tout ça on met à évaporer pour que le vinaigre s'évapore un petit peu, et là-dedans on rajoute une légère de touche de jus de viande, là-dedans quelques épices. Donc moi ici c'est...
Ça va faire comme un caramel un peu, non?
Non, faut pas du tout l'amener au caramel, faut vraiment le mettre à ébullition, juste que le vinaigre s'évapore un petit peu pour perdre ce côté un peu trop agressif du vinaigre. Là-dedans, on rajoute un petit peu de jus de viande. En fait, l'équilibre du vinaigre, l'acidité du vinaigre et le sucre vont se contrebalancer l'une l'autre, ce qui va faire quelque chose d'assez harmonieux. Et donc, l'idée, c'est d'amener quelques épices. Donc là, il y a du poivre de Sichuan, poivre noir, pour un petit peu la relever. Et sur le thème de la Saint-Valentin, on est parti sur une petite pointe de chocolat pour lier l'ensemble en fait. Voilà, petit clin d'œil à nos grand-mères qui à l'époque
mettaient du chocolat notamment dans le bœuf bourguignon ou ce genre de choses.
Exactement, ouais. Voilà, l'idée de cette recette est partie de là, en restant dans le thème Saint-Valentin. Voilà.
Donc là, on va faire couler cette préparation de chocolat directement dans l'assiette et sur notre céleri qui donc définitivement ressemble beaucoup à de l'ananas et la crème fait vraiment beaucoup penser à du chocolat. On se croirait, c'est un peu un trompe-l'œil, tu sais, on dirait un dessert en réalité, Lola.
Ouais, là, c'est vrai que ça a l'allure d'un dessert et ça donne très envie, autant par l'odeur que par le visuel. Pour le coup, le céleri est assez simple comme goût. Donc avec le chocolat ça va parfaitement bien. Mais j'ai pas pris trop de poivre dans la bouchée, mais c'est vraiment délicieux. À vous goûter, monsieur.
Et le chef Jocelyn qui va donc lui aussi goûter sa propre recette. Merci beaucoup. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se quitter, en tout cas pour cette partie recette et puis pour cet épisode numéro 7, le premier de la nouvelle saison des coulisses de ton alimentation. On vous amène dans les coulisses, on vous fait découvrir les produits, notamment les produits de saison, les huîtres, le céleri, et puis à chaque épisode, il y aura une recette.
C'est bon, hein.
Et apparemment, c'était la première fois qu'on faisait cette recette, mais dans tous les épisodes, il y aura le même succès, hein, visiblement. On ramènera Lola à chaque fois.
On espère.
Merci beaucoup, merci Jocelyn.
Avec grand plaisir, à bientôt.